matin. Enfin, j'avais comme ressentait que plusieurs personnes avaient besoin de consolation ce matin. Et puis on pourrait imaginer, quand on pense à la consolation, simplement qu'on a besoin d'un câlin. Dieu, il vous le fait. Mais ce matin, il vient vous dire, je suis vivant. Il vient vous dire, je suis vivant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans mon nom. Je suis vivant, dit le Seigneur. Et c'est avec cette parole-là qu'il aimerait te consoler ce matin. C'est avec cette parole-là qu'il aimerait te permettre de lever les regards vers lui, de relever la tête, de ne pas rester courbé sous le poids de tes fardeaux, de tes fautes ou de tes circonstances. Il te dit, je suis vivant. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous t'élevons le nom de Jésus, le Dieu vivant, le seul qui peut délivrer, qui peut sauver, qui peut remplir entièrement nos besoins intérieurs. Le seul qui peut donner la vie éternelle. Ce matin, nous goûtons à ta source. Merci pour chacun qui peut ce matin relever la tête, qui peut être consolé par le fait que tu es le vivant. Merci pour la puissance de ton nom qui délivre encore aujourd'hui, qui libère de toute angoisse, de toute culpabilité, de toute honte, de tout esprit d'abandon. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre ce matin. Gloire à toi. Amen. Merci beaucoup au Seigneur, au Saint-Esprit pour son œuvre et bien sûr à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce moment. C'est une joie pour moi d'être avec vous, de vous voir nombreux. C'est une joie de voir aussi quelques visages. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. Quand je dis ça, ce n'est pas de nouveau une culpabilité vu que tout fardeau a été enlevé. Donc voilà, vous m'entendez toujours. J'ai l'impression que vous m'entendez moins bien qu'avant. Alors moi, je m'entends beaucoup moins bien. Alors si je peux avoir un petit peu de son ici, ce serait pas mal. Merci. Oui, ça me fait très plaisir de voir des nouveaux visages. Et puis tout à l'heure, nous avons un lounge. Un lounge, vous savez le truc là, on s'allounge. Hein, vous connaissez ça? On s'allounge. On a un lounge pour les nouvelles personnes. Donc si vous cheminez avec nous depuis quelques mois, c'est l'occasion de juste avoir un petit moment privilégié. Les autres, ben, on sait de toute façon qu'il n'y a aucun esprit de comparaison, aucun esprit de jalousie dans le royaume de Dieu. Donc tout ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez assez d'apéro le reste de l'année. D'accord? Bon. Non, mais ça nous permet d'avoir un petit moment sympa avec ceux qui nous rejoignent. Et puis peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous ne savez pas, peut-être c'est une fois, peut-être vous allez revenir, peut-être que vous étiez là il y a longtemps, mais que vous avez un peu perdu le fil. Alors, soyez les bienvenus aussi dans ce petit moment tout à l'heure. Ce matin, j'ai le plaisir de poursuivre et de terminer. C'est jamais un plaisir de terminer quelque chose, mais voilà, il faut bien. Cette série intitulée « Ce que vous demanderez au Père ». Donc, une série qui se base sur la prière du Notre Père, une série qui a pour but d'encourager notre vie de prière. Et il y a deux semaines, je vous avais laissé avec une mission, avec un défi, et plusieurs, même beaucoup, ont pris un engagement extraordinaire. J'avais demandé, mais est-ce que vous êtes prêts à demander au moins une fois dans votre semaine, demander le pain quotidien, demander ce pain de ce jour, et puis d'écouter la réponse de Dieu, de revenir à la fin de la journée avant de dormir en notant qu'est-ce qui vous a semblé être le pain de Dieu pour aujourd'hui. Alors, je vous avais donné un deuxième défi, c'était de vous éclairer sur une éventuelle situation de non-pardon, puis le cas échéant, de lui demander son aide dans ce processus qui est tellement des fois laborieux. Alors, je ne vais pas faire lever les mains, mais disons que j'espère que vous avez pu expérimenter, que quelque chose s'est déclenché, que vous avez été encouragé par cela. Et puis surtout, ne vous arrêtez pas. Hein. Moi, c'est juste que je voulais vous encourager sans vous dire il faudrait le faire tous les jours. Hein. Donc, il n'y a pas de « il faut », mais il y a un encouragement à vivre cette réalité de la prière quotidienne. Donc, oui, je le redis, je suis vraiment convaincu qu'on a besoin d'une vie de prière revitalisée. Et puis, ça passe par comprendre. Et je crois que si nous voulons voir l'action de Dieu, nous avons besoin d'une prière qui vient rechercher le cœur du Père. Nous avons besoin de comprendre le cœur du Père. Quel est l'accomplissement de sa volonté ? Nous désirons l'accomplissement de sa volonté et pas notre volonté. Et ça, c'est vraiment le point crucial sur lequel j'ai construit cette prédication. Donc, j'aimerais vraiment nous inviter à un changement de mentalité dans la prière. Je recherche sa volonté, y compris pour ma vie, bien sûr, sachant que tout ce qu'il a pour moi est bon. Donc la prière, elle ne peut pas se vivre sans cette dimension de l'écoute de Dieu. On a besoin de connaître le caractère de Dieu lorsqu'on prie. Si vous priez un père qui est un père qui punit, je vous assure que vous n'allez pas voir l'accomplissement. Je vous assure que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas voir même ses réponses dans votre vie quotidienne. Vous avez besoin de comprendre le cœur du Père, connaître son caractère. Donc, si on passe à côté de ça, on se retrouve à répéter de vaines prières dans l'espoir qu'il daigne bien vouloir nous écouter une fois. Hein, on se dit peut-être qu'à force, ce sera bon. Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur du Père pour ta situation ? Sachant qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est juste, qu'il est bienveillant, qu'il est patient, compatissant, sachant que tu es son enfant. Quelle est sa promesse ? Qu'est-ce que sa parole te dit ? La persévérance est très utile dans la prière. Je ne veux pas mettre de contraste avec le fait de ne pas répéter les vaines paroles. Mais la persévérance, ce n'est pas répéter les vaines paroles. La persévérance, c'est s'appuyer sur la volonté du Père. C'est s'appuyer sur les promesses qu'il vous a données. Et cette persévérance n'est pas vraiment pour que Dieu n'oublie pas ce qu'il a lui-même dit. Des fois, on lui répète les choses, oublie pas ma prière. On croit que c'est pour lui. Non, ce n'est pas pour lui. Mais il y a une réalité qui a un enjeu dans l'accomplissement de la volonté du Père sur la terre. L'accomplissement, la volonté du ciel sur la terre. Il y a un combat spirituel qui s'étend même en nous, lorsqu'on commence à douter de la promesse de Dieu, lorsqu'on commence à douter de sa puissance. Regardez-moi ici. Ok ? Il y a un combat qui est là. Oui, vraiment, je vous l'assure. Je reprends Jean 16, 23. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc Jésus a enseigné cette prière qu'on appelle le Notre Père. Et puis cette prière, elle est vraiment comme, j'aime bien l'imaginer comme un chemin. J'aime l'imaginer comme un squelette finalement qui va nous permettre de faire grandir notre vie de prière. Mais dans cette prière, il y a une progression. Et nous avons vu plusieurs choses ensemble, je vais juste y revenir. Mais le texte nous dit, on va reprendre juste la lecture dans Matthieu 6. Alors je reprends même depuis le verset 7 en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Puis Jésus va dire, mais voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est vraiment par là qu'on entre. C'est ce rappel que nous avons eu, nous prions le Père. Nous prions le Père au nom de Jésus. Nous avons accès au Père à cause de Jésus, à cause que Jésus est mort sur la croix. Nous sommes dans la maison du Père. Nous avons accès vraiment à ce royaume de Dieu, ce lieu d'abondance, ce lieu où tout est possible. C'est là que nous allons. C'est à ce Dieu-là, ce Dieu Père, que nous nous adressons. Que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu. tu es Dieu. Donc quand on prie, on a besoin de se souvenir de ce chemin-là, à qui on s'adresse dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu ? Tellement important. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, une requête qui comprend le cœur du Père. Donne-nous le cœur, le pain quotidien. Et nous avons cette confiance qu'alors que nous lui demandons ce pain, il nous donne quelque chose de bon. Il nous donne en suffisance. Je n'ai pas besoin de moi lui faire connaître tout et puis lui dire ce que je veux exactement. Si je lui demande le pain quotidien, il va me donner ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'il va réajuster nos demandes. On peut lui dire tous nos besoins, mais il va peut-être les réajuster. Voilà, parce qu'on est dans l'écoute, parce qu'on est dans l'accomplissement de sa volonté. Pardonne-nous nos offenses, une repentance qui engage responsabilité et réciprocité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y avait cette dimension de « je pardonne, il me pardonne en retour ». Je pardonne, comme, tellement important. Et puis, aujourd'hui, nous continuons avec les versets 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la prière qui éloigne la tentation, la prière qui résiste dans le lieu secret. La prière qui reçoit et garde la protection de Dieu. Peut-être vous l'avez su ou entendu, peut-être que ça vous a passé bien au-dessus, mais il y a eu un changement, une traduction, on pourrait dire œcuménique, de ce verset 13 qui a été officialisé fin 2017. Alors, cette traduction dit ceci, on ne dit plus « ne nous soumets pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation ». On vous dit dire, ouais, je dis ça, peut-être ça vous passe vraiment au-dessus, quoi. Hein ? Vous voyez une différence ? Bon, petite nuance théologique, mais qui pour ma part a un sens. Parce qu'en effet, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Hein, puis quand on dit ne nous soumet pas, c'est comme si c'est lui qui nous donnait la tentation. Hein, mais c'est bien l'œuvre de Satan. Et Jacques, chapitre 1, verset 13, nous le dit très bien, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et puis Jacques, il va continuer en disant que la tentation est la cause de nos propres désirs. C'est la tentation vient du désir de la chair. Alors là aussi, la chair, qu'est-ce que ça veut dire la chair ? Peut-être que notre vocabulaire chrétien est un peu difficile à comprendre pour toi aujourd'hui. La chair, c'est mon être dominé par le péché. La chair, Paul parle de notre propre nature. C'est la chair, cette chair qui a des envies, des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme, on pourrait dire, c'est nous sans Dieu, finalement. C'est l'homme abandonné à l'homme. C'est l'homme coupé de Dieu. Donc on a sans cesse cette lutte intérieure en nous-mêmes entre la chair et l'Esprit. En ce qu'on voudrait nous sans Dieu, et puis la volonté de Dieu en nous, Christ en nous. Donc, il y a un processus que Jacques décrit qui part de la tentation et qui conduit au péché, et puis finalement à la mort. Parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans cette prière, il y a quelque chose de tellement clé. Ne me laisse pas entrer en tentation. La tentation, elle est là. La tentation, elle existe. C'est vrai ? Ou bien c'est que moi ? Non. Vous êtes comme moi alors, ça va. Elle est là, elle existe, mais je ne veux pas y entrer. Je ne veux pas y entrer. C'est intéressant, il y a une tentation, puis c'est comme s'il y a une porte. On ne veut pas y entrer. Et j'ai besoin du Seigneur pour cela. Jésus lui-même a dit ceci à ses disciples, spécialement à Pierre, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous connaissez ce passage, hein ? C'est la dernière nuit avant l'arrestation de Jésus. Ils sont dans le jardin de Gethsémané. Et puis Jésus vit un moment d'angoisse. La crucifixion approche, la séparation avec le Père approche. Et puis, il est dans un temps de combat spirituel. Il y a déjà un combat spirituel terrible qui est en train de se livrer. Et ses disciples ne prient pas, mais s'endorment. Lui, il vit un combat terrible, puis eux dorment. Et ce sommeil représente assez bien notre aveuglement. On ne voit pas le combat. On ne voit pas les enjeux, parfois. Le sommeil, ici, c'est comme le besoin de la chair. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? Ce serait super gentil. Mais il y avait un combat de l'esprit à mener dans la prière. Il y avait un combat à mener. Et eux dorment. Ils ne voient pas. La chair est plus forte. Et même si on est bien disposé, on tombe facilement. Et je suis sûr que vous en avez fait l'expérience. Quelle que soit la forme de la tentation, ne dormons pas. Ne dormons pas, mais veillons et prions. C'est ce que Jésus nous demande. Et Pierre dira aussi, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, veillez encore une fois. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. La prière qui éloigne la tentation demande au Père de nous donner sa force pour veiller. Merci Laurent, c'est vraiment un cadeau pour moi et pour toute l'Église. Bon. Veiller signifie être vigilant. Veiller, c'est porter une attention stricte, une attention active. C'est pour ça que j'ai mis ces yeux là. Rester vigilant, ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Lorsqu'on parle de veiller, souvent, hein, on pense à rester tard, à se coucher tard, n'est-ce pas ? Moi, j'ai veillé tard. On avait un super mariage hier soir, j'ai veillé tard. Hein, mais vous êtes d'accord ? On parle de veilleurs hein, dans les EMS, dans les hôpitaux. Il y a des veilleurs dans les foyers, il y a des veilleurs. Hein. Est-ce que vous avez déjà travaillé de nuit ? Pas mal, hein, quand même. Ouais. J'ai aussi fait cette belle expérience de travailler de nuit. C'est pas facile. Parce qu'en plus, il y a une semaine où vous êtes de nuit, une semaine où vous êtes de jour, puis il faut toujours prendre ce rythme. Puis là où je travaillais, imaginez, c'était un centre de contrôle pour les transports lausannois. Et puis, je devais faire attention, je devais être attentif qu'il n'y ait personne qui pénètre sur le site pendant la nuit. Et puis, c'était la construction du M2. Et puis donc, il y avait des trains de travaux, il y a des gens qui travaillaient la nuit. Donc je devais veiller à leur sécurité. Puis il y avait du courant, 7500 kilowatts, qui, à terre. Donc il fallait faire hyper attention de ne pas allumer le courant au mauvais moment. Il fallait être sûr qu'il ne soit plus sur le chantier, les gars. Hein, vous imaginez ? Autrement, vous êtes grillés, quoi. Ça de nuit. Je peux vous dire que j'étais un peu comme ça des fois. J'hésitais de mettre des allumettes. Hein ? Oh, c'est compliqué de veiller. C'est dur, ça demande de l'énergie. Pas facile de tenir. La vigilance que Dieu nous demande, veiller ce combat, c'est la même chose. Veiller face à la tentation. On a besoin de sa force pour garder cette énergie-là, cette force pour garder les yeux ouverts, pour voir le danger. Parce qu'il y a le lion qui rôde. Il y a des dangers que vous avez déjà probablement très bien identifiés. Vous savez où sont vos tentations. Vous savez probablement assez bien dans quelles circonstances vous êtes vulnérable. Puis lorsqu'on commence à bien verrouiller l'accès, c'est parfois là que le lion essaye de passer par ailleurs. N'est-ce pas ? Là où on ne l'attendait moins, disons. Là on disait peut-être pas moi. Ça ne m'arrivera pas. Mais j'aimerais quand même vous dire que l'ennemi n'est pas surprenant. Dieu, lui, peut nous surprendre admirablement, c'est extraordinaire. Mais pas l'ennemi, en fait. Parce qu'il passe toujours par la case tentation. Il y a toujours la tentation. Parce que notre chair y est sensible. Donc il passe par la case tentation. Notre prière demande à Dieu de nous garder de nous-mêmes, finalement. Lorsqu'il dit « Mais garde-moi de la tentation », ne me laisse pas entrer dans la tentation. Mais l'ennemi, on le voit arriver. Ça passe par la tentation. Vous voyez les choses en vous-même. Nous devons donc veiller à nous-mêmes, car comme on l'a vu, c'est nos désirs qui engendrent le péché. Père, garde mon cœur. Père, garde mes pensées en Jésus-Christ. Ne me laisse pas entrer en tentation. Voilà une prière qui éloigne la tentation. J'aime cette prière du Notre Père parce que c'est vraiment une prière quotidienne. Une prière de base à laquelle on est appelé à bâtir. Pour aujourd'hui, pour demain, c'est quoi ta tentation ? Qu'est-ce qui est là ? Maintenant ! Ce n'est pas une prière récitative. C'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. Ce qui est certain, c'est que nous faisons tous face à la tentation. Mais nous avons le choix d'y entrer ou non, de résister ou non. Donc nous demandons sa force pour veiller et résister. Veiller sans résister n'a aucun sens. Vous êtes d'accord ? Veiller, si vous êtes attentif, si moi dans mon centre de contrôle, je suis hyper attentif que personne entre sur le site. Je veille. Et quand la personne est là, je laisse aller, je l'ai bien vu entrer. J'ai veillé. J'ai vu que la personne est entrée. Mais si je ne suis pas allé lui dire qu'il ne fallait pas entrer, si je n'ai pas résisté, qu'est-ce que ça va changer ? Souvent, on fait ça. On voit le truc arriver gros comme une maison, et puis on ne fait rien pour résister. Alors, on doit apprendre à résister. C'est ce deuxième point, la prière qui résiste dans le lieu secret. On lit en Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Intéressant, hein, ces trois étapes. Soumettez-vous à Dieu, la volonté de Dieu de nouveau. Lui d'abord, premièrement, je suis couvert sous la volonté de Dieu. Je plie à sa volonté. Ainsi, je peux résister au diable et il va fuir loin de moi. Nous avons aussi une promesse extraordinaire face à la tentation. Je suis sûr que beaucoup, vous la connaissez par cœur, cette citation, ces versets 13 et 14 de 1 Corinthiens 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La prière qui éloigne la tentation croit avec foi qu'il nous donne la force pour la supporter, la force pour y résister. Mais aussi le moyen pour en être libéré. Il y a une porte de sortie. Êtes-vous conscient que le plus grand du combat se fait lorsque vous êtes seul dans le lieu secret, lorsque vous êtes seul, lorsque personne ne vous voit? C'est là le plus grand combat. J'ai beaucoup aimé entendre un prédicateur assez cru, je ne citerai pas de nom, mais qui a dit « Aujourd'hui, les chrétiens, c'est une moyenne, passent environ 30 heures par semaine devant les écrans, hein, devant Netflix, par exemple. Et puis 10 minutes par jour en prière. Et ils sont certains de pouvoir prier avec puissance pour lier toutes sortes d'esprits. Intéressant. Ne pas entrer en tentation et être délivré du mal passe par ma résistance dans le lieu secret. Et ces victoires auront une incidence sur ma foi. Ces victoires auront une incidence sur la puissance de Dieu en moi. Les plus grands hommes de Dieu, les plus grands hommes de foi ont dû se battre dans le lieu secret. C'est sûr. Ils ne vont pas le dire publiquement, mais c'est certain. Ma victoire ou ma défaite a une incidence sur le corps, sur l'Église. Et nous nous trouvons trop souvent, je m'inclus, on se trouve trop souvent liés, bâillonnés, sans autorité, à cause de nos défaites dans le lieu secret. Nous connaissons tous Abraham, homme de foi, héros de la foi même, dans les Hébreux, celui qui a été au bénéfice d'une promesse extraordinaire et qui a continué à espérer contre toute espérance. Mais savez-vous que lui aussi a eu ses combats ? Savez-vous que lui aussi il a eu ses tentations ? Et c'est souvent comme ça, on le voit plusieurs fois dans la Bible, après des grandes victoires, des hommes de foi ont eu des tentations terribles. On pense à Élie, hein, après sa victoire sur les Baals. On pense à David, bien sûr, qui se laisse porter ses regards après des combats sur son balcon, il vous laisse détendre, hein, hop, convoitise, qui va amener à l'adultère, qui va amener à un meurtre, qui va venir amener même au décès d'un enfant. Jean-Baptiste aussi, d'un coup, des moments pris par des moments de doute. Celui qui annonce le Messie, d'un coup, pris par le doute. Même Jésus, après avoir été baptisé, il se retrouve face à la tentation dans le désert, dans des moments de victoire. Abraham, il était encore Abram à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu ce nouveau nom de Dieu. Il revient victorieux d'une grande bataille, extraordinaire. Il a combattu contre plusieurs rois. Il a été recherché des gens captifs. Il a été libéré des prisonniers. Il rentre du combat. Waouh ! Le héros, le gars extraordinaire. Tout le monde l'applaudit. On peut imaginer vraiment la folie quand tu rentres après des moments pareils. Et puis là, dans une vallée, il va rencontrer deux rois. Melchizedek, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi du lieu de la paix. Certains commentateurs parlent de Jérusalem déjà. Ce roi était aussi le premier sacrificateur du Très-Haut. On retrouve dans le livre des Hébreux qui parle de Christ comme étant sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ce roi-là, il vient partager du pain et du vin. Intéressant. Il vient partager avec Abraham du pain et du vin. Et puis, il va le bénir. Et là, Abraham va lui donner la dîme de tous ses biens. La première dîme de l'histoire, elle est là. D'accord ? Il donne la dîme de tout. Puis on est avant la loi, si jamais. OK ? Bon. Et puis, en opposition totale avec ce roi de Salem, eh ben, il y a le roi du lieu des flammes, le roi de Sodome. Puis lui propose un deal. Vous imaginez ? Le roi de la paix, le roi des flammes, le roi du lieu des flammes. Puis il vient vous proposer un deal. Puis il dit, donne-moi les personnes que tu as libérées. Donne-moi les âmes. Le terme peut être traduit par âme. Donne-moi les âmes et en contrepartie, toutes les richesses, elles sont pour toi. Tu gardes tout, toutes les richesses. Donne-moi les gens, donne-moi les personnes, donne-moi les âmes. Est-ce que vous voyez l'enjeu ? Et puis Abraham va répondre ceci. Je ne prendrai rien, mais rien de tout ce qui t'appartient. Pas même un fil, un cordon de sandale, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Les amis, la prière qui résiste lorsque personne ne regarde dit même pas un fil. Même pas un fil. Vous pouvez le dire avec moi ? Même pas un fil. Purée. Même pas un fil. Oui, ne me laisse pas entrer en tentation, délivre-moi du mal. Mais cela va passer par notre résistance. Par ce moment de choix, vous direz non, je ne veux pas me souiller. Non, je ne veux pas entrer dans ce jeu de séduction avec cette personne. Non, je ne veux pas de la vulgarité. Non, je ne veux pas rechercher les richesses plutôt que les âmes. Cela passe par nos comportements. Cela passe par nos regards. Cela passe aussi par nos préjugés. Satan, je ne veux rien, pas même un fil. Qu'on ne trouve rien en moi. Je ne voudrais pas qu'il puisse dire quelque chose. Ah, mais ça, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai mis ça en lui. C'est moi qui lui ai donné ça. Non, rien. Pas même un fil. Voilà ce que nous devrions dire lorsque nous demandons au Père de ne pas nous laisser entrer en tentation. Donne-moi la force de résister et de dire même pas un fil. Amen. Amen. Dernier point, vous êtes encore avec moi. La prière qui reçoit et garde la protection de Dieu. Troisièmement, il y a donc une demande de vraiment ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Une prière qui reçoit et garde la protection de Dieu. Lorsque je lis ça, j'aimerais y mettre un non seulement et un bien plus. Je dirais comme ça, non seulement ne me laisse pas entrer en tentation, mais bien plus, délivre-moi du mal. Le mal, il peut être personnifié, il l'est dans le texte, ce n'est pas ce qui est mal ou toute forme de difficulté, bien que ça fait partie aussi. Délivre-moi de l'ennemi, délivre-moi de Satan. Mais nous savons qu'il peut se déguiser de bien des manières, qui parfois il prend des formes différentes. Dans 2 Timothée 4, verset 18, il est dit « Le Seigneur me délivre de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Le Seigneur, il nous protège, nous qui demeurons en lui. C'est une réalité. Il nous protège de tout mal qui pourrait nous arriver. Ça ne signifie pas qu'il n'y a jamais de difficultés ou de souffrances. Mais lui trace le chemin dans le désert. Il change le mal en bien. Il nous fait grandir au travers de l'épreuve. Ça, c'est une réalité. Mais l'intention de Dieu, l'intervention de Dieu au travers de la souffrance, elle est toujours rédemptrice. Et elle n'est pas palliative. Elle est rédemptrice, elle n'est pas palliative. Je trouve ça hyper important. Vous voyez la différence? Lorsque nous sommes dans la souffrance, eh ben lui, il nous amène le salut. Il nous libère, il nous amène un chemin nouveau. Mais il ne nous donne pas la pilule pour qu'on tienne. Et puis, de toute façon, on sait où ça arrive. Hein, les soins palliatifs, vous savez où ça mène. D'accord? Non, lui, il nous amène à la résurrection. Il nous amène à la vie au travers de la souffrance. Alors, on lit dans le psaume 23, hein, « Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. » Et puis, on a lu aussi dans le psaume 34, 8, en introduction, « Il nous arrache au danger. » Extraordinaire. Donc, on a un Dieu qui désire nous protéger. Mais pour garder cette réalité-là, pour garder cette protection, on a besoin de cette foi. On a besoin de foi. Vraiment, il me garde du danger. Vraiment, je ne crains aucun mal. Il y en a beaucoup qui marchent dans la peur. Même en tant que chrétien, vous ne pouvez pas marcher dans la peur. Imaginez si chaque fois vous avez peur de tout ce qui pourrait vous arriver. Vous avez plus peur de ce qui peut vous arriver que confiance en Dieu qui vous protège. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Il nous arrache du danger. Alors, que faire face à celui ou celle qui me fait du mal? Que faire face à mon ennemi? Est-ce que vous avez des ennemis? Ça arrive, hein? Parfois, c'est la belle-mère. Non. Soyons en terre à terre, hein? Ce n'est pas les grands combats d'Abraham contre des rois. Hein? Des fois, c'est des gens tout proches qui deviennent notre ennemi, notre collègue, etc. La personne qui nous a pris la place à la buanderie ou notre place de parc et qui nous empêche de passer, ça devient... C'est notre ennemi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de mon ennemi. Enlève cette personne de ma vue. Hein? Fais quelque chose. Vous avez déjà fait des prières comme ça? Il s'est passé quoi? Elle est partie, la personne? Pas tellement, hein? La prière qui reçoit et garde la protection de Dieu est une prière qui demande à Dieu sa force pour aimer. Incroyable ça. On n'y pense pas comme ça. Hein? On a besoin d'aimer pour garder aussi cette protection. Il ne va pas nous enlever la personne, il ne va pas nous enlever notre ennemi, mais il y a une puissance de transformation dans l'amour qui est extraordinaire. Mais aimer, c'est mettre des limites. Aimer, c'est mettre des limites. Il y a un ennemi. Il faut lui mettre des limites à cet ennemi. Non seulement pour vous, pour rester dans cette protection que Dieu vous offre, mais aussi pour la personne. Parce que vous l'aimez. Et puis parfois, la personne, elle n'est même pas consciente du mal qu'elle fait. Mais il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises. Alors, vous allez lui mettre des limites aussi à cette personne. Parce que vous l'aimez. C'est génial. Aimer, c'est dévoiler la vérité. Vous pouvez prier, vous pouvez demander que la vérité soit faite, que la lumière soit faite sur les intentions de cette personne. Parce qu'il y a des personnes mauvaises, elles sont tellement sournoises. Puis personne ne voit. Hein. Les gens sont avec. Les gens sont toujours d'accord. Hein, des fois, c'est des gens qui ont même une certaine aura. Mais derrière, c'est sournois, derrière, c'est tordu. Que la vérité soit faite. Aimer, ce n'est pas laisser la personne comme elle est, mais c'est croire en la puissance de Dieu qui fait grâce et qui transforme. On aime le pécheur, mais on n'aime pas le péché. D'accord ? Donc, l'amour, c'est aussi ça. On ne veut pas que cette personne reste comme ça. Puis on ne veut pas qu'elle reste sans voir. Alors ma prière demande au Seigneur de me montrer comment me protéger du mal, quelles limites je dois mettre. Il n'enlève pas les choses comme ça. Quelles limites je dois mettre ? Ma prière demande au Seigneur de dévoiler les intentions de mon ennemi, que ce soit mis en lumière pour enlever toute tromperie ou duplicité. Ma prière, elle demande au Seigneur de sauver cette personne du mal qui est en elle. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Alors j'arrive au terme de mon message avec encore cette citation de Charles Spurgeon, célèbre prédicateur, qui a dit ceci, « Une intercession sincère est sûre d'apporter l'amour avec elle. » Je trouve que c'est pas mal pour gentiment conclure cette série. « Une intercession sincère est sûre d'apporter l'amour avec elle. Je ne crois pas que vous puissiez haïr un homme pour lequel vous priez habituellement. » C'est vrai, ça. Si vous commencez à prier pour votre ennemi, quelque chose se passe, je vous assure. Vous pouvez pas, c'est impossible de prier. Vous n'allez pas prier des mauvaises choses. Vous n'allez pas souhaiter le mal. Il y a quelque chose qui vient naître en vous, qui vient changer votre regard. Ah, puis les couples, hein, on dit toujours qu'il faut prier ensemble. Mais vous croyez que c'est pourquoi ? C'est hyper important de prier ensemble. Hein ? Vous ne pouvez pas être énervé, fâché, et puis prier ensemble. Quand vous priez ensemble, il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu le même principe. Hein, simplement, là, c'est du vif, là. La personne est là, à côté. Mais quand vous priez pour votre ennemi, il y a quelque chose qui se passe. Alors ce matin, je vous propose que nous demandions ensemble au Père de demander sa force pour veiller, pour rester vigilant, pour ne pas dormir face à la tentation, face au combat qui est là, face à l'enjeu, qu'on ne soit pas endormi. Je vous propose qu'on demande aussi de prier pour sa force pour résister. Même pas un fil, rien, même pas un fil. Et on a besoin les uns des autres aussi pour s'encourager dans ce travail. Sa force pour aimer. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. On a besoin d'être rempli de son amour pour aimer celui qui nous est difficile d'aimer aujourd'hui. Je vous invite simplement à prier avec moi. Si vous désirez même vous lever pour dire « Mais j'ai besoin de sa force. J'ai besoin de sa force. Je me lève dans ce combat. Je veux être vigilant. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas m'endormir. » J'ai cette détermination ce matin qui dit même pas un fil. Parfois, on a vraiment ces deux dimensions, ce prince de paix puis ce prince des flammes qui est là, où il y a un chemin de vie, un chemin de mort. Puis la tentation serait tellement facile de lâcher. Ça semble tellement plus attirant, plus attrayant. Même pas un fil. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Père, merci pour ce temps. Merci pour la puissance dans le nom de Jésus. Merci parce qu'on peut s'adresser à toi. Merci parce qu'on peut venir dans ce lieu d'abondance. Merci parce qu'on peut venir dans ce lieu où rien n'est impossible, où tout est disponible. Comme le Père disait à ce fils qui revient et dans Luc 15, tout était disponible, tout est là pour toi. Tout est disponible dans la maison du Père. Merci pour cette réalité-là. Nous venons demander cette force devant toi aujourd'hui, face à la tentation. Viens, garde-nous vigilants, donne-nous cette force pour rester éveillés, pour voir le danger qui arrive, pour ne pas nous mettre nous-mêmes dans des situations dangereuses, pour nous garder de nous-mêmes. Seigneur, on désire voir le combat qui est le tien. Père, viens, Saint-Esprit, donne-nous la force pour résister. Seigneur, c'est parfois tellement dur de résister. Il y a une lassitude, il y a parfois une fatigue, c'est parfois les mêmes choses qui reviennent. J'arrive plus à résister. Seigneur, ce matin, tu redonnes un désir nouveau à celles et ceux qui se sont levés ce matin. Tu redonnes un désir nouveau à celui qui a lâché dans le lieu secret. tu lui redonnes cette force pour résister face à l'ennemi et pour te dire même pas un fil. Je veux rien de toi. Je veux rien. Tu redonnes cette hargne. Et Père, nous prions que tu nous donnes cet amour face à notre ennemi, face au mal qui est parfois personnifié avec une personne qui nous entoure, qu'on a l'impression d'être comme persécuté, qu'on est dans son viseur, ou des personnes qui nous font toujours des sales coups. Il y a des combats ouverts comme ça. Change notre regard. Donne-nous cet amour qui est capable de transformer, qui est capable de faire fondre les cœurs les plus durs. Seigneur, nous prions selon ta volonté. Je prie que nous puissions vivre cette prière au quotidien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.